Géopolitique, Marie-France Chatin.
Yémen, quand la guerre finira-t-elle? Nous retrouvons nos invités François Frison Roche, chercheur au CNRS et ancien directeur du projet Aide à la transition démocratique au Yémen au sein de l'ambassade de France, et Guillaume Binet, photoreporter et cofondateur de l'agence de photographes Myop. Guillaume Binet, les journalistes étrangers, reporters de guerre, n'ont accédé au terrain que de façon assez exceptionnelle et dans des conditions souvent extrêmement difficiles, devant choisir entre attendre un visa qui n'arrivait jamais ou qui mettait très longtemps à arriver, ou entrer illégalement en traversant la mer. Alors on a beaucoup dit que le conflit au Yémen était un conflit qui était resté très largement ignoré. Il y a un aspect des choses qui interroge, c'est le fait que les journalistes yéménites ont été très peu sollicités par la presse occidentale dans ce conflit.
En effet, je pense que pour comprendre les conflits, c'est vrai que les premiers sollicités vont être les journalistes que les rédactions connaissent. Peut-être parce qu'il y a un même langage, ou il y a une même déontologie première. Ensuite, il faut un peu de temps pour essayer de comprendre la situation et éventuellement, de faire appel à des journalistes locaux. Je pense que le problème du Yémen, c'est que c'était une situation extrêmement complexe dès le début. Mmh. C'est que moi, j'y suis allé en 2015, je suis revenu, j'étais pendant le siège d'Aden, ça me bombardait dans tous les sens. Je pensais avoir vraiment fait un super boulot et j'arrivais dans les rédactions et finalement, il fallait que je réexplique tout le Yémen depuis 2015. Voire même avant de pouvoir comprendre un tout petit peu ce qui pouvait se jouer à ce moment-là. Donc j'ai dû monter avec Libé, France Inter, un gros dossier pour réexpliquer toute la situation, finalement pour nos confrères journalistes, pour donner les clés aux gens de comprendre cette histoire nord-sud, sunnite, chiite, etc.
Est-ce que je pourrais juste rajouter quelque chose? C'est que le Yémen, pour la presse française, c'est terra incognita.
Il n'y a que les grands voyageurs qui connaissaient le Yémen. On ne va pas parler de Kessel.
Voilà, de Rimbaud, etc., etc. Non, ce qu'il y a, c'est que c'est une zone anglo-saxonne. Et si vous regardez à l'époque, 2015, 2016, vous pouviez voir un certain nombre de choses à la BBC par des journalistes britanniques qui avaient leurs correspondants. La presse française n'avait pas les mêmes contacts. Donc, on ne parlait pas du Yémen parce qu'il y avait le terrain syrien, il y avait le Sahel, il y avait quantité de terrains beaucoup plus importants que le Yémen.
Et parlons des réfugiés. Le Yémen est enclavé. Enfin, il y a la mer d'un côté, l'Afrique, c'est la corne de l'Afrique dont on va peut-être parler. On ne peut pas dire que d'aller se réfugier en Somalie, ce soit la panacée. Au nord, ils ne pouvaient pas fuir parce que c'est l'Arabie Saoudite. Donc, on se retrouve sur un peuple qui n'a pas pu fuir les combats et finalement pas pu porter la parole vers l'Europe, notamment, si on parle de nous, bien évidemment.
Alors, on va parler des puissances régionales. François Frison Roche, on l'a déjà évoqué un peu dans la première partie. On voit donc cette coalition s'opposer aux rebelles autistes au Yémen, coalition menée par l'Arabie Saoudite. Il y a un pays qui est partie prenante dans ce conflit et dont on parle beaucoup moins que de l'Arabie Saoudite, ce sont les Émirats Arabes Unis. Est-ce qu'il y a une explication à cela ?
C'est un pays qui a manifestement de grandes ambitions régionales et qui a déjà fait une base aéronavale en Érythrée, donc face à Hodeïda et pour garder le détroit de Bab el-Mandeb. Ils ont repris une ancienne base soviétique dans le Somaliland. Ils sont en train de construire un port à Bosaso, dans pointe de la Corne de l'Afrique. Ils ont manifestement pris en main Mukalla sur la côte yéménite. Voilà un pays, les Émirats Arabes Unis, qui veulent jouer un rôle de gardien des deux détroits, en quelque sorte. Évidemment, le détroit d'Ormuz, parce qu'ils sont en première ligne, mais aussi le détroit de Bab el-Mandeb, et ainsi peser sur l'échiquier international. Alors, c'est un petit pays immensément riche, qui a de grandes ambitions, qui a une armée bien formée, qui a manifestement des capacités, les meilleures capacités de la région. Maintenant, c'est un pays qui se cache un petit peu derrière l'Arabie Saoudite, car l'Arabie Saoudite veut rester le pays pilier de la péninsule arabique. Donc, finalement, ils y ont trouvé que des intérêts. Ils n'apparaissent pas directement, puisqu'ils font partie de la coalition, même si c'est certainement à jeu égal avec l'Arabie Saoudite. Et puis, ça leur permet d'avancer leur pion, parce que leur ambition, c'est de, je vous dis, maîtriser la sécurité dans cette zone du golfe d'Aden et du détroit de Bab-el-Mandeb.
Alors, ce détroit de Bab-el-Mandeb, on peut juste rappeler que c'est par ce détroit que transite 30 à 40% du commerce maritime mondial. Ça aussi, c'est important de le souligner. Cette alliance au Yémen entre l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, est-ce qu'elle a vocation à durer indéfiniment, François Frison-Roche, ou est-ce qu'on peut percevoir déjà quel pourra être le point de rupture?
Il y a certainement des choses qu'on va découvrir d'ici quelques mois, si tant est que M. Martin Griffith arrive à pousser plus loin les négociations.
De l'ONU.
C'est parce que, justement, les Émirats sont intéressés uniquement par la partie sud du Yémen. Ce sont les côtes. C'est une zone, une région assez peu peuplée. Je rappelle qu'il y a environ 20 à 22 millions d'habitants au nord Yémen, sous contrôle Houthi. Le sud, alors que géographiquement, c'est la zone la plus importante, n'a que 5 à 8 millions d'habitants. Et puis, c'est beaucoup plus désertique. Il n'y a que véritablement comme intérêt géostratégique que les côtes et le port, notamment de Moukalla, avec celui d'Aden. Les Émirats se contenteraient parfaitement d'un Yémen du Sud indépendant. Mmh. Ils ont commencé d'ailleurs. Ils ont complètement phagocyté le Conseil de transition du Sud et ils ont instauré dans les différentes régions des milices qu'ils arment, qu'ils entraînent pour que le moment venu, ils puissent maîtriser cette zone. Donc, dans quelques mois, on va voir que la fiction d'un Yémen uni va voler en éclats. Le problème, c'est que si le Yémen se sépare en deux, que le Yémen du Sud soit sous contrôle, disons, des Émirats, ça voudra dire que le Yémen du Nord, le plus peuplé, avec cette minorité de Houthis, eh bien, ce sont eux qui seront en première ligne devant l'Arabie Saoudite. Et peut-être que l'Arabie Saoudite n'a pas envie d'avoir un Yémen divisé. Et là, on va certainement voir dans quelques mois des points de friction entre l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. Il y a déjà eu des problèmes. Quand les Émirats ont occupé en quelque sorte l'île de Socotra, il a fallu que l'Arabie Saoudite intervienne et fasse partir les troupes émiraties de Socotra. Quand il y a eu la manipulation de milices autour d'Aden, pour la protection d'Aden par les forces émiraties, là encore, il a fallu que l'Arabie Saoudite intervienne, parce que le président Hadi, qui s'est réfugié à Riyad, a dit « mais le Yémen du Sud est sous occupation émiratie ». Il est allé jusqu'à dire cela. Alors ensuite, il y a eu un voyage du président Hadi aux Émirats Arabes Unis et que sans doute le chèque qui a été fait a été conservé et que le président Hadi a retiré plus ou moins ses propos. Mais on sent poindre, dans quelques mois, des zones de friction, et je ne suis pas sûr que l'ONU et son représentant sur place seront en mesure de faire en sorte que ces ambitions contradictoires entre les deux principaux membres de la coalition se résolvent avec, évidemment, la paix au Yémen. Mmh. Je pense, malheureusement, que la paix au Yémen n'est pas prête d'arriver.
Guillaume Minet.
Je redescends sur le terrain de la côte ouest, juste pour aller dans votre sens. Sur le terrain, il y a aussi des combattants yéménites, beaucoup de combattants yéménites, qui sont dans des rangées en armée, qui aujourd'hui combattent ensemble, mais qui sont, dès que ce sera un peu stabilisé, ils vont commencer à se battre. Il y a la Tiama Résistance qui viennent de la côte, qui ont on va pas dire des milices, une armée qui aujourd'hui combat et qui combat pour leur terrain. Il y a des salafistes. Sur le terrain, ils vont pas se réorganiser si facilement sous prétexte que l'ONU aura dit on va faire les choses de cette manière-là.
Il va bien falloir qu'il y ait une direction. Et là, je crois que le problème va se poser relativement rapidement sur les négociations préparées par l'ONU. Un Yémen unifié d'ailleurs ou non? Et puis qui? Parce que c'est intéressant de voir que le fils d'Ali Abdallah Saleh, qui avait été, pour être mis à l'écart, envoyé comme ambassadeur à Abu Dhabi, est soigneusement gardé au chaud à Abu Dhabi. Mmh. Le neveu, qui était chef des renseignements yéménites, donc un homme hyper puissant, est celui qui, dans la Tirama, est en train d'avoir une armée allant vers Hodeïda. Donc on sent qu'il y a par derrière, notamment les Émiratis, qui aimeraient bien finalement voir le fils ou le neveu d'Ali Abdallah Saleh revenir et reprendre ce pays, parce que c'est un pays qui aura beaucoup de mal à atteindre un régime démocratique tel qu'on l'entend, nous, en Occident. Sinon, eh bien, on vise à l'éclatement et on vise au conflit perpétuel au Yémen. Là, on verra aussi si l'ONU est capable d'agir ou non. Dire que on tiendra les côtes, on garde la sécurité de Bab el-Mandeb, et puis à l'intérieur, ils se taperont dessus. Ça n'est pas vraiment un défi, notamment pour l'Occident, puisque comme vous indiquiez tout à l'heure, les Yéménites, ils sont dans une nasse. Ils ne peuvent pas s'enfuir. Autant on voit en France, sous les ponts de Paris, vous voyez des Érythréens, parce que ces malheureux jeunes Érythréens, ils ont 3 ans à 5 ans de service militaire. Des Soudanais qui fuient parce que l'Arabie Saoudite, qui n'est pas capable de se battre sur le terrain au Yémen, recrute des mercenaires du Soudan pour venir se battre. Mais des Yéménites, vous n'en voyez pas sous les ponts de Paris, vous n'en voyez pas à l'OFPRA.
Alors justement, j'aimerais qu'on passe quelques minutes, et après ça on reviendra sur l'Arabie Saoudite et sur les États-Unis dont on n'a pas encore parlé, pour évoquer là tout de suite les répercussions sur la corne de l'Afrique. Vous citiez l'Érythrée, le Soudan qui avait des liens assez proches avec Téhéran. Tout ça a un petit peu, voire complètement changé.
Tout dépend du montant du chèque.
Tout dépend du montant du chèque. Alors, pour les pays de la Corne de l'Afrique, il va sans dire que ses partenaires émiratis et saoudiens représentent une opportunité de satisfaire leurs propres agendas nationaux et régionaux. Qu'est-ce que l'on peut en dire, François Frison Roche?
La Corne de l'Afrique, ça sera certainement une zone sur laquelle on va avoir à se pencher très rapidement. Il y a de grands bouleversements. Alors, parfois, c'est en bien. Hein, les accords qu'on a pu voir entre l'Éthiopie et l'Érythrée, c'est tout à fait exceptionnel. Il a fallu qu'il y ait un nouveau premier ministre éthiopien qui décide que, ça y est, le conflit avec l'ancienne province éthiopienne, qui est maintenant l'Érythrée, serait réglé. Mais tout ça fait que des équilibres qui existaient plus ou moins depuis des années sont en train de basculer. Et il faut voir que quand même l'Érythrée était une dictature féroce, que le Soudan est une dictature féroce, son leader est quand même devant le tribunal international pour crimes de guerre, pour ce qu'il a fait justement au Darfour. C'est vrai que l'Arabie Saoudite soutient ses pays et que manifestement elle a dû donner beaucoup plus que l'Iran à une époque. Donc ces pays-là ont évidemment trouvé que l'appui de l'Arabie Saoudite était tout à fait important, même s'il peut y avoir de la mauvaise compréhension, car notamment le Soudan attendait certainement plus. Ils ont eu beaucoup de promesses, mais peu de choses sur le terrain. Bref, il y a en ce moment une espèce de révolution souterraine qui est en train de se passer dans cette zone, et il va certainement y avoir des répercussions. Le conflit yéménite, on pourra dire peut-être à un moment, a été la mèche qui a allumé quelque chose, parce que cela va avoir des répercussions. Je vous dis, quand il y a des mercenaires saoudiens, on parle de 1000 morts soudanais au Yémen. Alors certes, l'Arabie saoudite a indiqué aux familles qu'ils seraient enterrés en terre sainte de l'Arabie saoudite. C'est quand même quelque chose qui pose question.
Guillaume Bina, vous souhaitez rajouter quelque chose, ou on passe à l'Arabie Saoudite, aux États-Unis, l'affaire Khashoggi qui a terriblement terni l'image des dirigeants saoudiens. Est-ce qu'on peut imaginer une sorte de deal, François Frison Roche, entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite? Il serait demandé à Riyad de quitter le Yémen, moyennant quoi les Américains se satisferaient des explications saoudiennes sur l'assassinat du journaliste.
C'est vrai que l'affaire Khashoggi, donc de ce journaliste qui a été assassiné dans le consulat d'Arabie Saoudite en Turquie, a été l'élément qui a permis de faire ressortir l'affaire yéménite. Les Américains ont eu enfin un levier pour pouvoir peser sur l'Arabie Saoudite dans cette guerre au Yémen. Alors vous savez, les relations internationales, c'est un théâtre cynique. Et donc, si les Américains disent et obtiennent un certain nombre de choses, parce que, comme vous l'indiquiez en introduction, le Congrès américain commence à estimer que ce soutien à l'Arabie Saoudite est parfaitement disproportionné. Si il y a donc cette possibilité de marchandage, parfaitement abjecte, mais marchandage quand même. Eh bien, on pourrait voir l'Arabie Saoudite non pas se retirer, car l'Arabie Saoudite a toujours été présente au Yémen et elle continuera. À une époque, c'était grâce au fonds que l'Arabie Saoudite
donc
pouvait verser à des tribus.
Donc présence moins visible, mais présence tout de même souhaitée
elle
de l'Arabie Saoudite au Yémen.
Évidemment, évidemment. L'Arabie Saoudite s'intéressera toujours au Yémen. Et cela permettra éventuellement, j'allais dire, une sortie un peu par le haut, sans que l'Arabie Saoudite perde la face. Elle a déjà perdu son image internationale. Vous avez quand même des tentatives de restauration d'une certaine image de marque. Rappelez-vous quand on a indiqué dans la presse occidentale que les femmes saoudiennes allaient avoir l'autorisation de conduire. Bon, on a vu que quand même il y avait des personnes s'occupant des droits de l'homme, notamment des femmes qui ont été ensuite mises en prison parce qu'elles revendiquaient évidemment un petit peu plus. Donc vous voyez que l'image de marque de l'Arabie Saoudite est quand même très atteinte par ce conflit au Yémen. Si elle pouvait s'en sortir, elle serait certainement contente. Seulement, il y a une dimension régionale, culturelle et cultuelle que l'on ne doit pas ignorer et qui, pour nous occidentaux, est très difficile à percevoir. C'est cette culture de la fierté, cette culture de l'honneur, cette culture de l'affront. L'Arabie Saoudite ne voudra jamais perdre la face avec la guerre au Yémen. Donc, il va falloir trouver une solution qui permette à la fois l'Arabie Saoudite d'avoir une sortie de crise honorable, entre guillemets, tout en prenant en compte les réalités du terrain. Les Houthis tiennent le terrain, il va falloir qu'on négocie enfin avec eux.
Et les Houthis, Guillaume Binet, c'est un soutien fort de la population yéménite. Comment
Les Houthis viennent de l'extrême nord du Yémen, mais les peuples yéménites du nord ne sont pas tous Houthis. Mais ont leur propre culture, ont une culture du Yémen du Nord. Même s'ils ne sont pas Houthis, même s'ils ne sont pas zaïdistes, ils se revendiqueront culturellement. C'est ce qu'on disait tout à l'heure sur ce côté confessionnel qui n'est pas obligatoirement la meilleure lecture. Mmh. Ils se revendiqueront du nord du Yémen, sont des montagnards pour la plupart, pas tous, je le répète, Houthis, pas tous zaïdistes. Et ils se revendiqueront nordistes, montagnards, avant de venir d'Aden, quoi. Je veux dire, ils se reconnaissent pas du tout dans les peuples du Sud. C'est comme ça que les Houthis ont pu descendre. Mais ils sont descendus. C'est pas tout le Nord qui est Houthis contre tout le Sud qui ne le serait pas. Voilà.
La population yéménite, très lasse de ces 4 années de guerre, je suppose,
mais
Guillaume Binet.
La population, elle souffre énormément. C'est-à-dire que j'évoquais tout à l'heure les mines, j'évoquais les bombardements, toutes les engins non explosés, j'évoquais une agriculture qui est, dans toutes ces zones de combat, complètement laissée à l'abandon. Écologiquement, c'est un pays qui est jonché de déchets plastiques sur des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres. Il faudra nettoyer. Enfin, je veux dire, la population n'en peut plus. La population n'a pas d'eau, la population n'a pas d'essence. Je veux dire, au nord comme au sud. Alors, au sud, un peu plus approvisionné, mais quand on parle de problèmes alimentaires, pas encore de famine, mais de poche, de pré-famine. C'est parce que l'agriculture a été complètement abandonnée.
Le Yémen, déjà, importait plus de 90% de son alimentation, déjà, avant le conflit. Oui.
En conclusion, François Frison Roche, vous êtes
pessimiste parce que ce conflit est d'une certaine manière inextricable. Et il est inextricable parce qu'on ne veut pas prendre en compte un certain nombre de réalités, à la fois sur le terrain, à la fois sur le plan régional et à la fois sur le plan international. Là, il va certainement y avoir à faire peut-être un examen de conscience, si tant est que ce soit quelque chose de faisable de nos jours.
Pessimiste aussi, Guillaume Binet.
Moi, je retiens le mot que vous évoquiez tout à l'heure, c'est de cynisme, quand on évoquait l'affaire Khashoggi, et le jour où on considérera que le journalisme passe devant la vente d'armes, je pense qu'on aura déjà fait un grand pas dans notre compréhension d'un conflit, donc j'espère rapidement qu'on va s'intéresser aux populations locales et aux gens qui vivent cette guerre avant de penser à nos profits.
Merci à chacun. François Frison Roche, je rappelle que vous êtes chercheur au CNRS et ancien directeur du projet Aide à la transition démocratique au Yémen au sein de l'ambassade de France, et Guillaume Binet, photoreporter et cofondateur de l'agence de photographes Myop. Géopolitique a été signée Marie-France Chatin, Yaël Co, Véronique Durand et Nathalie Laporte. Demain, l'émission sera consacrée à l'ONU et à la crise que connaît l'organisation sur fond notamment d'affaiblissement du multilatéralisme. À demain.